Octave Mirbeau, des artistes, J.F. Raffaelli. Monsieur Jules Lemaître prétend que tout a été dit, que tout a été fait, que, par conséquent, il est inutile, sinon ridicule, de dire ou de faire quoi que ce soit. On doit s'asseoir sur le bord du chemin, regarder M. Renan passer et tourner silencieusement ses pouces. Telle est la fonction du littérateur moderne. Elle est séduisante, et souvent j'ai redouté que M. Jules Lemaître ne prêchât d'exemple, que, dans un accès de dilettantisme aigu, il prit la résolution de ne plus rien dire et de ne plus rien faire, ce qui nous priverait assurément de fantaisies charmantes et hebdomadaires, et peut-être, qui sait, d'œuvres fortes. Il faut s'attendre à tant d'imprévus avec le capricieux et spirituel lettré, qui serait bien capable d'avoir du génie un jour, rien que pour se donner le malin plaisir de se contredire et de nous étonner. Mais je veux croire que M. Jules Lemaître se trompe et qu'il reste encore dans le champ moissonné de l'esprit humain quelques glanes à ramasser, même après M. Chantavoine, même après M. Hugleroux. Comme démonstration, voici M. J.F. Raffaelli, dont les Types de Paris viennent de paraître, une publication de grand intérêt et qui résume assez fidèlement l'œuvre de ce puissant peintre. M. Raffaelli a, lui, inventé quelque chose dans son art, c'est-à-dire qu'il a exprimé des sensations dont personne ne s'était avisé avant lui. Il est vrai que c'est un peintre, et que ces sortes d'inventions ne touchent guère M. Jules Lemaître. Pourtant, tout peintre qu'il est, M. Raffaelli a fait entrer dans le domaine de l'art pur et, partant dans l'intellectualité, une série d'êtres et de choses dont on ne s'était point préoccupé jusqu'ici et que l'école normale ne jugeait pas, sans doute, assez nobles pour qu'elle permît à des professeurs de les aimer. Si civilisés que nous soyons, nous gardons toujours de notre hérédité grossière, fortifiée en grossièreté par notre éducation, un fond d'inférieure tendresse, d'émerveillement esclave pour tout ce qui reluit, une admiration exclusive et lâche pour les belles étoffes éclatantes, pour les santés brutales, les natures riches et les insolents soleils. La douleur elle-même, si elle veut plaire à nos âmes de parvenus, doit avoir de longues traînes de dentelle et d'authentiques quartiers de noblesse. Et la mort ne nous apparaîtra vraiment amusante et de bon goût que si le mort ou la morte, en mourant, lègue aux jeunes fiancés qui pleurent des millions, des châteaux et du bonheur de théâtre à en approvisionner le gymnase pendant 100 ans. Le romantisme, et après lui le réalisme, qui valent comme doctrine ce que valent toutes les écoles, c'est-à-dire rien, ont eu du moins le mérite de reculer considérablement l'horizon de l'investigation artiste et de nous faire comprendre que toute la nature, même celle réputée hideuse, parce qu'elle ne se manifeste pas en peluche de salon ou en marbre d'écurie, est pour celui qui sent, qui est ému sincèrement, une source d'éternelle, de toujours neuve beauté. Mais nous ne sentirons cette vérité complètement que le jour où toutes les castes seront abolies et que l'idéal de la convention artistique ne sera plus le privilège odieux et mensonger d'une seule classe parce qu'elle est riche. Grâce à M. Raffaelli, la banlieue de Paris, ce monde intermédiaire et bizarre, à la fois grouillant et abandonné, qui n'est plus la ville et qui n'est pas encore la campagne, où rien ne finit, où rien ne commence, où les hommes, épaves des misères sociales, petite vie bourgeoise, métiers mystérieux, rôdes nocturnes, écrasement prolétarien, où les ciels, charriant avec la suie des cheminées d'usines, l'âcre odeur des poussières urbaines, où les paysages, faits de végétations étiolées, de profils gris, de silhouettes désolées, d'horizons fumeux, de détritus et de gravats relevés, ça et là, de la cassure vive d'une tuile ou du luisant d'un morceau de verre, ont un caractère si particulier de souffrance et de révolte, une si poignante couleur de mélancolie, a conquis sa place dans l'idéal. Victor Hugo, dans Les Misérables, avait bien eu le pressentiment de cette poésie complexe et nouvelle, la sensation de ces drames de modernité. Mais cela resta, chez lui, à l'état de pressentiment brut. Trop enclin aux exaltations lyriques, il eut seulement l'instinct vague de cette beauté et n'en sut dégager ni une forme précise, ni un type vivant. C'est bien à M. Raffaelli que revient l'honneur de cette découverte. Un littérateur qui n'eût été que littérateur, un peintre qui n'eût été que peintre, ne l'eussent pas faite. Il fallait pour la réalisation d'une telle œuvre la concordance dans un même esprit de cette double émotion et de cette sensibilité jumelle. Il était nécessaire qu'à des qualités de vision picturale, maîtresse, se mêlassent des qualités d'observation, d'ordre purement littéraire, aigu, car non seulement cette œuvre est admirablement pittoresque, elle a aussi une haute signification sociale. Elle affirme le droit à la vie, le droit à la pitié de l'art, le droit à la beauté pour les petits, les souffrants, les réprouvés. Ce n'est point un pamphlet, ni l'acte de foi d'un apôtre, ni l'acte de doctrine d'un théoricien. C'est l'explication raisonnée et rendue sensible par des idées et par des couleurs, par des attitudes, des formes, des mouvements d'âme et des paysages de tout un milieu social, s'agitant dans l'ombre étouffante que projette sur lui l'inexorable ville. J'espère que M. Raffaelli ne m'en voudra pas de cette constatation. Il y a des peintres qui ne souffrent pas qu'on les accuse de littérature. Ils peignent, et voilà tout. Insinuer qu'ils pensent leur est presque un outrage. Et il arrive ceci. Quand on dit de leur tableau qu'ils suggèrent quelque chose, ils sont furieux et s'écrient « Ah ça, me prend-on pour un romancier ?» Mais si l'on déclare qu'ils ne suggèrent rien, ils se tiennent pour dûment insultés et s'écrient ben, « Me prend-on pour un imbécile ?» M. Raffaelli n'est pas de ces petites espèces qui restreignent l'art à une manifestation unique. Il est de ceux, au contraire, qui professent que l'art est une combinaison harmonique des sons, des couleurs, des formes et des pensées. M. Raffaelli est essentiellement un moderne. J'entends qu'il a le sens et l'amour de la modernité, ce qui est plus rare qu'on ne se l'imagine. Beaucoup de peintres se croient modernes parce que, délaissant les tuniques grecques, les casques romains et les pourpoints de la Renaissance, ils vêtent leurs modèles de fracs à revers de soie ou de robes à la dernière mode. Mais sous les fracs et sous les robes, les corps restent quelconques. Formules apprises à l'école, contours d'atelier, souvenirs de musée. Et les physionomies ne reflètent aucune des particularités morales de l'habitude contemporaine. Elles viennent de la Cyrénaïque ou de Tanagra, d'Athènes ou de Rome, de Milan, du temps de Ludovic le Mort, ou de Florence, du temps de Laurent de Médicis, c'est-à-dire qu'elles ne viennent de nulle part. L'art de M. Raffaelli est tout différent parce qu'il est réellement de l'art, c'est-à-dire le résultat d'une émotion personnelle. Avec ce qu'il y a d'immuable dans le fatalisme humain, M. Raffaelli reproduit les états d'âme spéciaux à notre époque, spéciaux surtout à une catégorie dite de notre époque. Par les figures qu'il nous représente, et par-delà ces figures, s'aperçoivent nettement la vie, ses luttes, ses conflits hiérarchiques, ses égoïsmes homicides, ses inanités. Elles nous content, ces figures, non pas seulement l'histoire de leur intimité morale, mais l'histoire des milieux sociaux où elles évoluèrent, les habitudes qu'elles y prirent, les souffrances, les joies, les résignations ou les révoltes qu'elles en gardent. M. Raffaelli a même noté avec une précision extrême du caractère, saisi avec une étonnante intelligence des nuances, les déformations musculaires et anatomiques, inhérentes et variables à chaque métier, si bien que ces personnages, on les reconnaît tout de suite à leur démarche, à leur tic, à tout ce que le labeur a mis sur eux d'accentuation physique. Et toutes ces évocations, l'artiste ne va pas les demander à la vulgaire anecdote d'une composition scéniquement arrangée, à la trop facile compréhension des attributs et des accessoires chargés d'allégoriser le motif. Tout le drame se concentre dans l'expression des gestes, dans le mouvement des attitudes, dans l'accord intime des figures avec leur naturelle ambiance. Intérieur de pauvreté et de travail, paysage de détresse où les cheminées fumeuses remplacent les arbres, où le pâle soleil suburbain rit à travers les treilles épamprées des guinguettes, où la Seine roule ses eaux malfaisantes entre des berges hérissées de poulies et de machines écrasées par les charrois. Et les mains, les grosses mains, si lentes et si gourdes, les mains nouées d'exostose et raidies par les calus, ces mains vénérables et canailles, aux tendons étirés, aux muscles évidés, ces mains, tout en apophyse et en jointure, qui semblent des machines ou des bêtes, avec quel accent de pitié elles disent les dures besognes journalières et les crispations formidables sur les outils, armes de vie dont elles rêvent parfois de faire des armes de mort. En artiste curieux de tout ce qui émeut, M. Raffaelli n'a pas voulu spécialiser ses observations à la seule banlieue. Il a peint des portraits, rapporté de Jersey des études de plage charmantes, de Londres des types et des scènes de la rue grouillant de vérité et de vie. En tout ce qu'il a tenté, il a mis l'empreinte de son talent original, l'accent de sa personnalité et de son pénétrant esprit. Fidèle à sa doctrine d'art, il a cherché toujours, jusque dans les plus rapides impressions, le caractère des êtres et des choses. Mais peut-être ne retrouve-t-on pas ici, dans leur ampleur et dans leur charme suggestif, ces qualités maîtresses de force et d'émotion, par où, là, ils s'élèvent si haut. Ou bien les retrouve-t-on peut-être trop également distribués en des sujets qui demanderaient quelquefois, je pense, un peu plus de légèreté de main et une plus délicate sensibilité de l'œil. C'est une observation à coup sûr bien subtile et qui n'enlève rien à l'admiration que j'ai de ce peintre puissant. Ce que je veux dire, c'est que je préfère M. Raffaelli dans ses études de la banlieue de Paris, qu'il a faite sienne, études si larges, si profondes, si humaines, où il restera inimitable, et qui me donne à moi le frisson des grandes œuvres. Écho de Paris, 8 mai 1889.